Et bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour l'émission du samedi 26 juillet 2025. La fin du mois approche à grands pas et nous sommes avec un Bitcoin à 117 350 dollars. Un Ether à plus 50 à 3 738. Il a un peu fait le yo-yo cette semaine, mais on voit qu'on est toujours dans le vert, plus 4% sur la semaine. Moins 8 pour XRP, toujours en hebdomadaire. On va plutôt regarder l'hebdo où on voit que petit à petit, c'est en train de se poser pour les alts. On a quand même eu en journalier pour SUI plus 10%, plus 14 pour Hedera Hashgraph qui en hebdomadaire est tout juste à l'équilibre. Plus 7,62 pour le Toncoin, plus 21 pour Ethena, plus 50 en hebdo, 140 sur le mois, 28e place, 3,75 milliards de cap à 60 centimes. Ando qui nous pousse un plus 6%, Pudgy Penguins, la collection du moment, en tout cas sur les réseaux sociaux, plus 16%, plus 40 sur la semaine. Et enfin, du côté de cette finalité de top 50, on a Sky, anciennement Maker, si je dis pas de bêtises, il y a tellement eu de rename un peu partout qu'au bout d'un moment on s'y perd, vous me corrigerez dans les commentaires, mais qui est à la 49e place, qui se hisse à 2 milliards de capitalisation et qui nous a poussé donc 14% sur la journée. Le Scalpex en 4 heures, pas plus à exploiter pour l'instant, on est entre les 115 et les 124 au nord, donc on est en train de travailler très longuement cette médiane de range autour de 117-118. Les open interest sont toujours hauts, mais on a un petit désengagement et c'est tout à fait normal puisqu'on a eu beaucoup de liquidations. Je crois que ça a été 1 milliard la première journée ici qui ont été liquidées au niveau des longues et à peu près sensiblement pareil le lendemain. Donc toutes les personnes qui font du levier bien entendu finissent tôt ou tard par se faire punir. Le Crypto Fear and Greed 72, il a l'air d'être bloqué sur la zone qu'il travaille depuis une bonne petite semaine. Donc pour l'instant statu quo également de ce côté là, on n'a pas de grande euphorie du côté des altcoins. Au niveau de notre indicateur agrégateur d'alerte, vous avez donc au niveau des indices le CBBI qui est actuellement à 81 sur 90, donc on a pris systématiquement des targets relativement éloignés. Le RSI Hebdo est autour de 67, le Crypto Fear and Greed, comme on l'a vu à l'instant, autour de 72. Donc quand on regarde tout ceci, on a à peine un indicateur sur 25 aujourd'hui qui est en zone critique. Mais je vous invite bien entendu à régler vos propres alertes si vous voulez avoir un truc un peu plus affiné. Également, on a les trois derniers halving où on vient de dépasser les jours depuis le halving, donc du premier cycle qui a été mesuré ici. Et les deux suivants étaient autour de 547 et 526 jours. Donc on n'y est pas encore, mais entre, on va dire, une soixantaine de jours et 80 jours maximum, on va y venir, 90 jours, ce qui ferait là aussi à peu près un trimestre. Donc si on compte à compter de août, ça ferait août, septembre, octobre au maximum, par rapport en tout cas à tout ce qui s'est déroulé sur les cycles précédents. Là aussi, pas mal de personnes sont en train de dire que ça y est, les cycles sont finis, que les institutionnels sont là, que ça se passera jamais plus pareil. Bon, quand, à partir du moment où on voit passer ça et que ça devient un peu le son de cloche omniprésente du côté des réseaux sociaux, vous connaissez la musique. Du côté de AAV, on est autour de 4,6 et 5% pour USDT et USDC au niveau des emprunts variables. Donc pour l'instant, pas de méga surchauffe. On est dans la zone neutre, on va dire. À partir des pics qui viendront à 10-15%, et c'est déjà le cas sur Arbitrum, mais il y a moins de liquidité, et bien c'est là où ça deviendra un peu plus critique et où il faudra regarder un peu plus précisément vers la porte de sortie. Également, vous avez une offre donc un peu spéciale sur Ledger qui vient de lancer la petite carte qui vous permet tout simplement de faire une sauvegarde de votre site Phrase et de le réintégrer plus tard sur les wallets qui ont une puce NFT de type Ledger Flex et Ledger Stacks. Donc ça vous permet d'avoir une sécurité supplémentaire, et aujourd'hui pour les détenteurs de Flex et de Stacks, vous pouvez la commander directement gratuitement sur le site, ou bien elle vous sera offerte à compter d'il y a, je crois, 24-48 heures pour toutes les personnes qui prendront une Flex ou une Stax à l'avenir. Donc vous avez le lien en commentaire et description, ça vous donne 10$ de Bitcoin en plus. Et d'ailleurs, à l'époque où il y avait des offres, c'était marrant, sur le Discord, on a vu des personnes qui nous ont remonté ça récemment, quand il y avait des 30-40$ en Bitcoin offerts. Vu que le Bitcoin a bien performé depuis, notamment sur la Nano S+, ça a permis d'avoir des devices comme ça qui ont été largement remboursés par le marché et par le pump du Bitcoin. Avant de partir au niveau des news, un petit update au niveau de Realty, puisque vous êtes beaucoup à suivre le sujet en ce moment. Donc plutôt que de faire beaucoup de blabla pour rien dire, vous avez deux très longs résumés de Globe59 David, qui a tout simplement résumé tout le community call, le dernier en français, par rapport à ce qui est en train de se passer sur Realty. Pour vous faire un résumé très court et concis, en gros, ils ont des problèmes avec la ville de Détroit qui leur empêche actuellement sur le papier d'exercer et de verser les loyers pour un bon nombre de propriétés de Détroit. 3 et ils leur disent vous mettez ces loyers dans un séquestre quelque part et dès qu'on aura tout aplani, eh bien vous pourrez réopérer. Et ça sous-entend également d'avoir fait les travaux, de ne pas expulser des squatteurs. Enfin, il y a pas mal de choses qui sont en cours, c'est assez long, donc pour ceux qui veulent tout le détail, eh bien vous l'avez. Cabourg Crypto, pareil, il nous a fait un très très long résumé de tout ce qui est en cours. Pour eux, une fois qu'ils ont eu traité tout ça, pour l'instant, eh bien dans tous les cas, ça reste une problématique qui est liée justement à la gestion locative locale de Détroit. Là où Realty sont en train d'essayer de se défendre, eh bien, c'est qu'il y aura une première audition autour du 5 août, si je ne dis pas de bêtises, qui devrait leur permettre notamment de démontrer qu'ils ont fait pas mal de travaux récemment et qu'ils peuvent continuer d'exercer comme ils l'ont fait jusqu'ici. Et c'est pour ça que, on a la sensation qu'ils ont peut-être fait l'autruche de leur côté vis-à-vis de la ville de Détroit ou d'injonctions passées et que là, ils sont en train d'essayer d'éteindre le feu par rapport à tout ce qu'ils n'avaient pas fait peut-être en amont. Là aussi, je ne peux que vous donner des suppositions vis-à-vis de tout ce qui est paru sur les réseaux sociaux. On n'est pas sur place, on n'est pas dans la gestion de comment ils gèrent leur propre business. Donc c'est très difficile de se faire un avis totalement précis et qui ne soit pas biaisé par le bruit quelque part qu'il y a sur les réseaux sociaux. Également Armand qui nous a fait un résumé ChatGPT de leur dernière déclaration et de justement toute cette défense qui est en cours envers tout ce qui leur est reproché par rapport à notamment des logements sur lesquels il n'y avait pas eu des travaux qui étaient faits ou parfois de simples amendes pour des poubelles qui n'étaient pas sorties ou des choses dans ce style. Donc vous savez à quel point les États-Unis aussi sont parfois complexes à naviguer. Vous savez aussi que vous pouvez continuer d'utiliser le YAM, c'est-à-dire l'échangeur qui vous permet d'échanger de pair à pair directement au prix du marché vos tokens. Donc pour ceux qui depuis plusieurs semaines et depuis que pas mal d'infos ont circulé ont voulu sortir a priori jusqu'à aujourd'hui, ça s'est plutôt pas mal passé. Également, vous avez la possibilité sur le RMM, qui est un AAV-like puisque ça se passe sur AAVV3, c'est tout simplement un dérivé, vous avez la possibilité d'emprunter jusqu'à 50%, là aussi si je dis toujours pas de bêtises, de vos prix de token quand vous les déposez. Attention, en ce moment, on a des taux qui sont autour de entre 10 et 15% au niveau de l'emprunt, ce qui fait que par corollaire, ceux qui déposent de la liquidité en DAI sont également rémunérés à plus de 10%, mais je vous invite bien entendu à faire le point autour de ça, il y a toujours des risques de toutes parts, bien entendu. Également, ça vous permet, pour ceux qui sont là depuis plusieurs années, d'avoir perçu tous vos loyers pendant des années et de vous dérisquer en empruntant 50% de la valeur totale de vos tokens, ce qui peut permettre là aussi de continuer à vous dérisquer. Bien entendu, je vous donne toutes les cartes pour qu'aujourd'hui, vous ayez un maximum d'informations et un maximum de possibilités entre les mains. Après, ce qu'il adviendra par la suite par rapport à une opération qui est désormais une opération un peu juridique, voilà, c'est beaucoup plus compliqué de savoir quelle va être la finalité de tout ça et si ça va pas porter préjudice au long terme à Realty. Les inflows qui continuent d'affluer sur Ethereum au niveau des spots, donc ça se passe plutôt pas mal. On a en général 2 000 milliards par jour qui continuent de rentrer, c'est complètement fou, alors que Bitcoin commençait doucement mais sûrement à marquer le pas. Génération Crypto qui reprenait CryptoQuant et qui disait que les investisseurs retail, les particuliers sont en train de vendre tandis que les institutions seraient en train d'accumuler. J'ai quand même un doute que sur le fait que les institutionnels achètent massivement du Bitcoin à 120 000, hors Treasury Company, puisque c'est le but d'acheter à n'importe quel prix. Mais voilà, il y aura bien un moment où tout ça va un tout petit peu se gripper et où on aura des prix, je suppose, un peu plus attractifs. Peu importe si entre-temps, le Bitcoin va plus haut par rapport au prix sur lequel il travaille maintenant. Toujours avec Goku, le récent transfert de 80 000 Bitcoin inactifs pendant 14 ans pourrait provenir de wallets initialement hébergés par MyBitcoin. C'est un service qui s'est effondré après un piratage en juillet 2011. Donc peut-être qu'on a le fin mot de l'histoire de ces fameux 80 000 BTC. Journal du Coin, le nombre d'entreprises cotées détenant plus de 1 000 BTC explose en 2025, 24 à la fin du premier trimestre, 30 au deuxième et déjà 35 en ce début de troisième trimestre. Donc on voit désormais ce qui porte finalement le prix du Bitcoin. On a un véritable FOMO au niveau de ces Bitcoin Treasury Company. Walter Bloomberg et Goldman Sachs qui tirent un peu la sonnette d'alarme vis-à-vis du haut trading spéculatif négatif en ce moment au niveau des indicateurs et des 7 magnifiques, etc. Et pour eux, on serait dans une configuration similaire à ce qu'on était avant la bulle dot-com, donc Internet dans les années 2000, et même ce qui s'est déroulé en 2020 au niveau de la bulle pandémique, comme ils l'appellent. Donc, je ne sais pas, eux, voilà, en général, peut-être que les prix sur lesquels les cours travaillent maintenant, les indices et tout, ça les dérange un peu, et ils essaient de commencer à développer un narratif bearish pour racheter plus bas, si jamais tout le monde venait à avoir peur. Mais quand même, il y a pas mal de super banques comme ça, qui, notamment, je crois qu'il y a un an ou deux, c'était les JP Morgan et compagnie, qui disaient qu'après avoir fait 5 ans complètement fou, à imprimer des 10, 20, 30, voire plus, % par an du côté des indices, il y a bien un moment où on va avoir comme ça les 5 ans miroir où on ne fera plus que du 1 à 3%, et je suppose que ça finira bel et bien par arriver. Julio Moreno de CryptoQuant toujours, qui met en avant qu'on a pas mal de bitcoins qui sont en train d'affluer du côté des échangeurs principaux, Binance, Bybit, Gemini, OKX. Donc c'est difficile à dire à court terme. Est-ce qu'on va se diriger plutôt vers les 110 000 à compter justement de 115, 117 sur lesquels on est aujourd'hui? Est-ce qu'on va essayer de franchir les 124 voire 125 pour ensuite aller direction 130, 140, 150? À court terme, c'est un peu 50-50, j'ai envie de dire. Sawyer Merritt qui nous montrait l'avancée de la robotique, notamment en Chine. Donc c'est la compagnie Unitree qui a révélé son robot qui pourrait coûter que 6 000 $, 25 kilos, et qui est une machine de guerre, entre guillemets, puisqu'on voit qu'il bouge très vite et qu'il pourrait quasiment tout faire. Comme disait Jordan Montel, tout est en ATH ou quasiment en ce moment, que ça soit du S&P 500 au CAC 40 qui est proche mais en retard, le Stoxx Europe 600, le Topix pour le Japon, Emerging Market, MSCI World, France Suisse, Euro, Gold, Bitcoin, secteur défense. Donc c'est vrai que si tout va bien, si tout le monde est en train de gagner, si tous les bitcoins sont en profit et que le monde entier devient riche, tous main dans la main et dans le meilleur des mondes, c'est vrai que ça laisse se poser quand même quelques questions. Boursico, Dassault Aviation qui chute de 8% après publication de ses derniers résultats, et pourtant son carnet de commandes est plein à craquer, et des livraisons de Rafale qui devraient plus que tripler d'ici à 2028, donc peut-être un secteur à explorer. Le succès des ETF crypto est énorme avec Raphaël Bloch, The Big Rail, et il ne concerne pas que les ETF Bitcoin, puisque désormais l'Ethereum ETF, ETHA de BlackRock, vient de dépasser les 10 milliards d'encours en seulement un an, et vous avez le tableau complet avec un total donc qui petit à petit flirte avec les 20 milliards pour Ethereum. Ça s'est déclenché tardivement, mais c'est en train de partir un peu parabolique. Une théorie dont on a parlé parfois sur la chaîne, parfois en live, et pour moi aujourd'hui ça peut se tenir, après c'est peut-être qu'une vue de l'esprit ou un biais, une confirmation, je ne sais quoi, par rapport aux montres de luxe, et on voit qu'en 2022, cette montre un peu particulière de chez Patek Philippe s'est changée autour du $2,550,000. Aujourd'hui, elle a baissé de 50%, $258,000. Une trend pourtant qui a été plutôt pas mal soutenue sur les montres comme Rolex, Patek, Audemars Piguet, etc. Mais pour beaucoup, elles ont perdu entre 50 à 70% de leur valeur de 2022. Et ça, pour moi, c'est assez analogue à ce qu'on voit du côté des altcoins. Certes, on a le M2 au niveau de la liquidité mondiale qui est en train de rebondir assez fort, mais derrière, on n'a toujours pas de prise de risque des opérateurs qui sont agglutinés, soit sur les super 7, soit encore un peu sur les bonds qui ont des taux relativement hauts et qui payent, un peu du côté des actions, des indices, mais on a une liquidité qui est fortement concentrée, exactement comme on a pu l'observer sur Bitcoin du côté du marché crypto. Benjamin Cohen, Into the Cryptoverse, les alts qui sont désormais à moins 43% par rapport à Ether, donc on continue d'avoir Ether qui fait ce que Bitcoin a fait précédemment, absorber pas mal de liquidités. On va voir si derrière il y a un déversoir ou si tout simplement le marché s'arrête là, puisque c'est aussi une possibilité. Attention, l'alt season n'est pas due, on le répète souvent, mais c'est ce qui coince finalement en termes de raisonnement, probablement, et on espère tous qu'elle sera là, mais c'est pas due du tout vu comment s'est passé ce cycle. Le VIX, et je trouve ça très intéressant, Income Sharks, il disait que à chaque fois qu'on arrive sur un point extrêmement bas, on peut avoir donc un peu une déroute du côté du marché traditionnel, ou du moins un énorme pic de volatilité, puisqu'on touche un point bas au niveau de ce fameux indicateur de la volatilité qui est aussi traduit vulgairement par l'indicateur de la peur pour la bourse traditionnelle. Également en miroir inverse, à partir du moment où vous avez un énorme pic par rapport au VIX, eh bien vous pourrez qualifier le marché en extrême peur la plupart du temps et avoir derrière un point d'entrée qui est assez extraordinaire, comme on l'a vu en avril ici vis-à-vis des tarifs de Trump, et la dernière fois c'était le 5 août, le Yen Carry Trade, où à chaque chaque fois, on est venu au-delà de 60 pour le VIX, ce qui en faisait un point d'entrée assez magistral également et qui m'avait permis, moi, de longues éthers pour rappel. Et derrière, ça s'est pas très bien terminé, mais c'est ma faute puisque malheureusement, je n'ai pas pris mes profits en temps et en heure. Info économique, malgré les sanctions américaines, le business continue. Une enquête du Financial Times révèle qu'au moins 1 milliard de dollars de puces Nvidia ont discrètement rejoint la Chine en seulement 3 mois. Donc au cœur du trafic, puces B200 utilisées par OpenAI, Google, Meta. Et on voit que, bon, malgré tout ce qui est en cours, justement, d'un point de vue des tarifs et des douanes, on a quand même ce business qui continue. Certains rapatrient du côté des États-Unis, certains essayent de bypasser comme ils peuvent. En tout cas, voilà, ça aura eu le mérite peut-être de faire bouger les lignes, mais pas tout le temps dans le bon sens. On a Bank of America qui dit que beaucoup de banques des États-Unis se préparent à introduire leur propre stablecoin. Donc, c'est vraiment l'enjeu, le sujet pour les États-Unis, plus que les cryptos volatiles, plus que les cryptos spéculatives, d'être sur ce sujet du dollar tokenisé. Je ne sais pas ce que ça va donner quand les super banques vont s'en mêler, d'autant plus que derrière, l'administration de Trump, malgré tout, a signé lors de ce Genius Act, donc au niveau des différentes lois liées aux cryptos, le fait de ne jamais avoir de banque centrale qui puisse s'en mêler, d'avoir une monnaie de banque centrale numérique. Et pour autant, on a des banques privées qui sont en train de dire « Bon, ok, on va avoir notre propre dollar tokenisé ». Donc franchement, je ne sais pas trop quelle va être la finalité de ça, mais je vois quand même un peu un choc au bout d'un moment entre le côté politique et notamment conservateur et ce que vont vouloir mettre en place donc ces super banques. Et on terminera avec le chart de Crypto Yoda qui nous permettra d'introduire notre propre analyse technique. Pour lui, on pourrait venir chercher donc autour de 150 000 $ d'ici maximum début 2026 et ensuite 2026-2027. On rentrerait dans cette phase de bear market, ce qui voudrait dire que le cycle est respecté et que par la suite, on viendrait travailler quelque part autour de 50-60 000 $. C'est à peu près ce qu'on s'en était fait comme image dans les dernières semaines lors d'un futur bear market et avec la zone des 50 000. On reverra ça dans un instant qui n'est pas une zone anodine. En attendant, on a bloqué autour de 4 000 milliards pour le crypto total et c'est normal puisque c'est la double trend d'Abdo qui passe très proche des 70. Donc pour l'instant, ça ne passe pas. On a beaucoup de volume bien entendu qui a été exécuté ces deux dernières semaines, mais moins que ce qui avait été exécuté en janvier et février 2025. Donc attention à ne pas se faire fourvoyer par là aussi les réseaux sociaux qui vous diront que ça y est, on est reparti sur la lune. Le crypto total 2 des alt est autour de 1500 milliards, légèrement en dessous. On a bloqué à 1560. On n'est même pas venu chercher le point haut pour l'instant de 2024. Donc petite consolidation peut-être à venir entre 1300 et 1500 milliards pour digérer un mois d'août qui historiquement n'est pas le plus favorable pour le marché crypto, d'autant plus qu'on a eu un mois de juillet assez extraordinaire. La dominance des stablecoins qui est en train de se stabiliser très proche de la zone de support qu'elle avait travaillé précédemment, donc sur ce ratio c'est 0.05, on était à 0.06, et à voir si elle essaie de récupérer la petite trend ici qui avait été cassée à la baisse. En tout cas pour l'instant, voilà, on est sur une stabilisation au niveau des stablecoins, et c'est ce que je vous disais la dernière fois, ça n'est pas parce que Tether est en train d'imprimer des milliards quasiment tous les jours que pour autant c'est forcément bullish sur en tout cas les moments extrêmes comme ça de volatilité. La Bitcoin dominance se stabilise à la moyenne mobile 50-60%. On a quand même perdu pas mal puisqu'on avait perdu 5-6 points. Ça n'est pas rien. On avait l'autre zone autour de 56, mais pour l'instant on semble plutôt en faveur d'une stabilisation également pour cette dominance. Tandis que le Bitcoin travaille longuement, eh bien cette trend qui prend tous les points les plus saillants des cycles précédents autour de 115. On a fait le nouveau point haut 123 000. La trend RSI également, dès lors qu'on s'approche du surachat, eh bien voilà, on a des ventes et là entre 72 et 74, 75, on voit qu'on a pas mal de choses qui se passent par là, en plus de cette trend long terme et en plus du RSI qui reste divergent. On continue de faire des points qui sont plus hauts. Le RSI démontre qu'on n'a pas tant de force que ça. Et quand on regarde ici sur Coinbase, on n'a même pas les volumes qu'on avait en novembre 2024, au moment où vraiment on était un peu plus vertical. Donc je ne sais pas ce qui va se passer honnêtement autour de cet automne. Est-ce que c'était un peu le dernier souffle là avant derrière d'avoir un retracement plus conséquent? Est-ce qu'on va chercher les 130, 140, 150 à l'automne, ce qui permettrait d'avoir un petit peu plus de jus du côté des altes et ensuite on retrace également? Je suppose que ça sera inhérent ce qui va se passer aux États-Unis une fois de plus. Alors certes, du côté crypto de la force, on a les vannes qui sont ouvertes comme jamais et on le voit, n'y a jamais eu autant de news positives que maintenant. Mais à partir du moment où le prix porté par ces infos, toutes plus positives les unes que les autres, va commencer un petit peu à bloquer, voilà, c'est là où on va commencer à voir un peu qui fait quoi et comment va se comporter le cours. Donc pour l'instant, statu quo. Mais on va essayer justement de ne pas perdre la tête et les pédales. En attendant, on a l'Ethereum Dominance qui a rebondi quand même assez fort hein, pour sa part, puisqu'on est passé en 2 mois de temps à peu près de 7% à 12%, ça n'est pas rien. On a une belle zone ici de confluence autour de 13 et c'est un peu le miroir de ce qu'on a vu hein, sur ETH-BTC avec ce ratio qui était venu à 0.018. On est venu retravailler les points de 2019-2020, c'était ouf. Et on est de retour aujourd'hui à 0.03 avec une zone de confluence autour de 0.04. Donc là aussi, Ether a bel et bien rattrapé. Est-ce que Ether a la force, a le jus pour venir percer les 3008 à 4000, 4100 pour allier les 4900 et des brouettes que constitue l'ATH aujourd'hui, ou est-ce qu'il va devoir se construire un peu plus bas? Et ce plus bas, ben voilà, j'ai mis un petit fibo ici, on a le 0.236 autour de 3288 pour ne pas dire 3003 et le 0.382 autour de 2900, zone qui a arrêté énormément de bougies ici, notamment sur le travail de 2024, juillet 2024 à nouveau, on avait eu un petit stop en janvier 2025 et également ici, ça a été la démarcation qui a permis de pousser ici. Donc à voir, pourquoi pas hein, un travail autour de 2009 pour Ether, si jamais ça ne passe pas de suite. On voit que pour l'instant, le RSI est cloisonné autour des 70, donc en hebdomadaire. Est-ce que ça passe immédiatement? Est-ce qu'on a besoin de consolider? Ça serait peut-être un peu mieux pour regagner de la force de justement consolider dans cette zone. Mais on est depuis un mois sur un mouvement qui ne laisse pas rentrer les retardataires et c'est tout à fait normal. C'est l'immense majorité du temps comme ça que ça se passe. Le DXY qui continue de moisir un petit peu entre 96 et les 100 points qu'on n'a pas réussi à reprendre. Est-ce qu'on va essayer d'imprimer un creux ici? Je ne sais pas. En tout cas, le RSI s'est mis à plat. Donc pour l'instant, il semblerait qu'on n'ait plus de velléité réellement vendeuse, en tout cas du côté du dollar qui s'est déjà bien bien désapprécié sous ce début de mandat de l'administration Trump. Le S&P qui a clôturé donc en ATH, hein, pas plus, pas moins. Donc ça continue de grind doucement mais sûrement, 32.5% par rapport au point bas, un V-bottom miraculeux. Là aussi, est-ce qu'on va avoir la force d'aller chercher bien plus haut? J'ai commencé à voir sur les réseaux sociaux que des banques, justement comme celle dont on parlait tout à l'heure, viseraient potentiellement les 7000 points. On est à 6004 pour le S&P. Donc pourquoi pas, hein, tout est possible, mais il y a bien un moment après, en 2026, où on va devoir passer à la caisse. Et du côté du Nasdaq, on a donc dépassé les 40% de performance en 3 mois, soit à peu près 4 ans de performance si on prend en considération que 10% est une performance annualisée déjà conséquente pour le Nasdaq. Donc c'est fou ce qui est en train de se passer, mais c'est à l'effigie de ce qui se déroule depuis 2020, depuis l'injection monétaire ici qui a mis l'ensemble de ces marchés sur une volatilité et un pas où les gens n'ont plus le temps de se retourner réellement et où chaque dip est payé immédiatement au risque justement derrière d'un jour avoir un marché qui rentre en range pour 2, 3, 5 ans et qui dégoûterait littéralement tous ces investisseurs qui ont été habitués à dès qu'on paye en moins 20%, derrière on récupère du 30-40, vous vous doutez bien que ça ne va pas durer indéfiniment. Le gold qui malgré tout reste dans son range a pris une poussée à 3340, ça n'est pas passé cette semaine, le RSI continue de se désengager, donc on n'a toujours pas malgré tout d'arrivée majestueuse du gold qui arrivera à nous faire un nouveau point haut. Je suppose derrière qu'on risque de redescendre, en tout cas si on venait à avoir des superpuissances qui petit à petit lèvent le pied sur cette méga accumulation qu'on a vue ces dernières années, sur ce fameux métal que tout le monde s'est arraché. Et on clôturera avec un alt et un sol, puisque en gros je veux juste vous montrer quelque chose que vous devez observer de votre côté par rapport à un potentiel devenir des alt. Mais par exemple sur Avalanche, si on enlève tous les petits dessins et tout ça, on voit qu'on a un double creux ici qui est quasiment parfait et on est en train de travailler donc la zone de sortie. Et donc à partir de là, je me demande justement ce que vont nous faire les alt. Est-ce qu'on va avoir le jus nécessaire pour autour de l'automne, fin d'année, partir? Et ça voudrait dire qu'il ne faut pas que Bitcoin re-rentre dans une downtrend, parce qu'à partir du moment où Bitcoin va corriger, très certainement que les alt vont corriger dans un ratio de x2, x3, voire x5 pour les plus lointains dans le market cap, les faibles capitalisations. De même que si Bitcoin raccroche le wagon et va nous chercher du 150 000 $, voire plus pour les plus ambitieux d'entre vous, d'ici cette fin d'année, on pourrait avoir en effet les fameux multiples dont on a parlé parlait la dernière fois, c'est-à-dire x2, x3, x5 pour les petites capitalisations, mais en comptant ce qu'on a déjà rentré récemment. Ether, par exemple, il ne va pas aller faire x3, je ne pense pas, en tout cas, sur ce cycle, sur son prix de maintenant. Donc déjà un x2 par rapport au prix de maintenant, ça serait assez extraordinaire. Donc ça nous permet de cadrer un tout petit peu ce qui est en train de se passer, tout en ayant bien en tête, effectivement, que la fameuse alt-season n'est pas due et que si elle vient à arriver, ça sera très certainement pas une alt-season de type 2017, 2018 et 2021. Ça m'embête de dire ça, puisque à chaque fois, je pars un peu pessimiste et on me dit « Ouais, mais tu veux pas que nos grands rêves se réalisent ?» Et je répondrai que j'essaie d'être le plus neutre possible face à tout ce qu'on s'est traversé justement ces dernières années. Probablement que c'est un peu biaisé, pessimiste, puisque, eh bien, en effet, on a traversé des choses qui ont été assez difficiles, notamment au moment de 2022 avec Terra, FTX, etc. On était beaucoup à penser que le marché mettrait des années et des années à s'en remettre. Derrière, on a eu une administration de Trump ultra favorable aux cryptos. Janvier 2024, les ETF spot qui lancent une marée comme on n'en avait jamais connu. Décembre 2024, le Bitcoin à 100 000 $, tout va bien dans le meilleur des mondes. Mais vous voyez bien que la mutation profonde qu'il y a eu sur cette année 2024 et qui continue en 2025 a priori permis de changer la vision qu'avaient les gens, notamment du côté des altcoins. Donc c'est pour ça que je vous enjoins, je vous invite bien entendu à faire très attention à comment vous allez interpréter justement votre diversification et le risque que vous allouerez sur ces bons vieux altcoins. Je vous souhaite une excellente journée, on se retrouve lundi et n'hésitez pas à commenter et mettre un petit pouce, ça fait toujours plaisir, ça permet à l'algorithme de vérifier qu'on existe et voilà. Je vous dis à lundi et à plus, ciao ciao.